Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une période assez méconnue de l'histoire d'Israël, celle qui a lieu entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On l'appelle la période intertestamentaire. Elle est assez méconnue, mais très importante pour comprendre l'époque dans laquelle a vécu Jésus. Cette période est absente de notre Bible, mais elle est tout de même annoncée par Daniel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette image. À droite, vous avez quatre bêtes qui apparaissent dans Daniel 7. Et à gauche, vous avez une statue dont il est question en Daniel 2. La statue et les quatre bêtes ont la même signification. Ce sont quatre royaumes qui vont se succéder. Premièrement, l'Empire babylonien. Deuxièmement, l'Empire perse. Ensuite, l'Empire grec et enfin l'Empire romain. Donc, voyez, vous avez ces quatre royaumes qui sont signifiés dans les quatre parties de la statue et dans les quatre bêtes. Mais dans les deux visions de Daniel, il y a un cinquième royaume qui fait son apparition. Pour la vision de Daniel 2, c'est une pierre qui descend du ciel et qui vient heurter les pieds de la statue pour la faire tomber et enfin la pulvériser. Et cette pierre devient ensuite une énorme montagne qui remplit toute la terre. Donc un cinquième royaume qui remplit toute la terre, qui est encore plus puissant que les quatre royaumes qui le précèdent. Et pour la vision de Daniel 7, c'est un fils d'homme qui descend du trône de Dieu et va asseoir sa royauté sur toute la terre, et Daniel nous dit que sa royauté ne prendra jamais fin. Et donc les chrétiens ont l'habitude d'interpréter ces deux visions pour dire que le dernier royaume, c'est le royaume instauré par Jésus, et finalement c'est l'Église, ce dernier royaume. Donc, pour dire que finalement, ces visions de Daniel nous montrent que ces 400 ans entre les deux testaments nous préparent à la venue de Jésus. Mais faisons un petit parcours historique avant de commencer l'histoire en elle-même, histoire de se situer. Parce que peut-être que vous n'êtes pas tout à fait habitué à l'histoire d'Israël. Alors voici une frise chronologique avec les derniers moments de l'histoire d'Israël. Donc à gauche, vous avez l'Empire babylonien, pendant lequel les Judéens ont été exilés loin de Jérusalem. C'est la période de l'exil, donc. Ensuite, sous l'Empire perse, eh bien, Darius a autorisé les Juifs à rentrer chez eux, les Judéens à rentrer chez eux pour reconstruire le temple de Jérusalem et les murailles de Jérusalem. Et donc voilà, on a une période d'un siècle de retour et de reconstruction de Jérusalem. Puis vous voyez la moitié de l'Empire perse, de la période perse, eh bien nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus rien, nous ne savons plus, il n'y a plus d'éléments bibliques qui nous permettent de raconter cette histoire. À partir de Malachie, hein, donc le dernier prophète de l'Ancien Testament, on ne sait plus ce qui se passe à Jérusalem pendant cette deuxième moitié de l'Empire perse. Et donc nous avons cette période intertestamentaire qui dure environ 458 ans, où nous avons la deuxième période de l'Empire perse, la période de l'Empire grec, enfin ensuite une période d'indépendance du royaume, d'un royaume judéen qui dure un siècle, et ensuite nous avons l'Empire romain, et avec l'Empire romain, nous enchaînons avec une période que nous connaissons bien mieux, c'est la période du Nouveau Testament. Mais voyons tout d'abord les 400 années de silence. Les rabbins ont dit que pendant 400 ans, l'Esprit de Dieu avait déserté Israël. Pendant 400 ans, Dieu n'a plus parlé par l'intermédiaire de ses prophètes, sûrement pour que les Juifs tendent bien l'oreille pour être prêts à recevoir le message d'un prophète qui s'appelle Jean-Baptiste. Mais pendant ces 400 ans de silence, il se passe aussi plein d'événements qui préparent la venue de Jésus. Et heureusement que nous avons d'autres écrits que la Bible qui nous permettent d'en savoir plus sur cette période de 4 siècles. Ce sont les deux livres des Maccabées, qui sont des livres apocryphes pour les protestants ou des deutérocanoniques pour les catholiques. Donc les deux livres de Maccabée d'une part et les écrits d'un historien juif du 1er siècle qui s'appelle Flavius Joseph d'autre part. Alors que nous disent ces livres? C'est que pendant ces 4 siècles, nous avons un processus, nous assistons à un processus qui semble inexorable. Ce processus s'appelle l'hellénisation. Et donc tout notre récit va se situer en réaction à ce processus d'hellénisation. Alors qu'est-ce que l'hellénisation? Pour comprendre l'hellénisation, il faut commencer avec un peu d'histoire. Donc commencer par le début. Vous avez sur la première image Alexandre qui chevauche son fidèle Bucéphale, qui est en train de battre Darius III, le Perse, en 330 avant notre ère. Donc voilà, il y avait un grand empire, l'Empire Perse, nous l'avons vu tout à l'heure, qui est supplanté par un autre empire grec, puisque Alexandre est macédonien. Et en 10 ans, Alexandre va bâtir le plus grand empire que l'Antiquité ait connu jusqu'alors. Un empire qu'il va construire de manière éclair, en 10 ans donc, hein. Mais le problème, c'est que Alexandre va mourir jeune, à 33 ans, en 323 avant notre ère, et sans héritier. Ce qui va poser un certain nombre de problèmes, et nous arrivons à ce deuxième point d'histoire, c'est que l'empire d'Alexandre va être partagé entre ces 4 généraux, qu'on appelle aussi des diadoques, et ces généraux vont donc posséder un royaume à eux. Donc 4 parties du grand empire qui vont venir aux 4 généraux d'Alexandre. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement à 2 dynasties, que sont les Lagides et les Séleucides. Une petite carte pour montrer ces 2 royaumes, Lagide et Séleucide. Alors d'une part, nous avons le général Lagos, qui a fondé la dynastie des Lagides en Égypte. Donc c'est en vert sur la carte. Les rois Lagides vont tous s'appeler Ptolémée. C'est pour ça que sur la carte, en vert, dans la légende, c'est marqué Empire ptolémaïque, parce que les rois vont s'appeler Ptolémée, et les reines vont s'appeler Cléopâtre. C'est pour ça que dans Astérix, Cléopâtre n'est pas du tout égyptienne, elle est grecque, puisqu'elle fait partie de la dynastie des Lagides. Donc ça c'est pour les Lagides. En rouge, vous avez l'empire Séleucide, qui a été fondé par le général Séleucos, et qui règne donc sur la Mésopotamie. Les rois vont s'appeler Séleucos ou Antiochos, puisque Antiochos c'est le prénom du père de Séleucos. Et donc Séleucos va fonder la ville d'Antioche, celle qui est à côté de Tarse sur la carte. Et cette ville d'Antioche, c'est celle qui va devenir la capitale de son royaume. Et c'est à noter aussi que 3 siècles plus tard, Antioche sera la 3e ville de l'Empire romain et la base missionnaire de l'apôtre Paul. Donc cette ville n'a pas fini d'être importante. Et enfin, comme on le voit bien sur la carte, la région de Jérusalem, qui s'appelle à l'époque la Coélésyrie, va être l'objet de toutes les convoitises. En effet, comme depuis le début de son histoire, la Palestine est prise en étau entre le nord et le sud, car elle est le seul passage entre les royaumes du Nord. Avant, c'était les Assyriens, puis les Babyloniens, et là maintenant, c'est l'Empire Séleucide. Et le royaume du Sud, qui est toujours le même, c'est le royaume d'Égypte. Vous voyez, la situation géographique de la Coïlé-Syrie ou de la Palestine, on est obligé de passer par là pour passer du nord au sud, parce que à droite, c'est-à-dire à l'est du Jourdain, c'est un désert, donc on ne peut pas passer. Donc on est obligé d'être ici. Donc cette zone géographique est absolument capitale, et donc elle a toujours attiré des problèmes à Israël, et dans la période qui nous occupe, eh bien ça continue. L'hellénisation, donc. Il faut quand même définir le terme. L'hellénisation consiste à imposer la langue grecque et donc la culture grecque à tout l'Ancien Empire pour l'homogénéiser. Donc voilà, Alexandre a déjà commencé cette hellénisation, hein, mais ses généraux vont continuer cette hellénisation. Et on va voir que beaucoup de juifs, sont pour l'hellénisation, pour un peu moderniser les traditions et pour adopter la philosophie et la culture grecque, quitte à faire beaucoup de compromis. Alors, avant de voir l'aspect négatif, hein, de l'hellénisation, nous allons voir l'aspect positif. Et l'aspect positif, c'est le 3. Est-ce que vous savez ce que signifient les quatre lettres LXX? Alors peut-être que vous savez, LXX, ça fait 70 en chiffres romains. Et donc c'est souvent comme ça qu'on représente la traduction grecque de l'Ancien Testament qui s'appelle la Septante. Alors la Septante vient de la ville d'Alexandrie, où il y avait une importante communauté juive. Donc Alexandrie, c'est en Égypte. Et pour pouvoir juger les Juifs en tenant compte de leur loi, le roi Ptolémée II Philadelphe, donc c'est dans la première moitié du IIIe siècle, a fait traduire l'Ancien Testament en grec par 70 érudits, d'où son appellation de Septante, hein, Septante-70. Et ces érudits, selon la légende, ont rendu une traduction totalement identiques. On les avait isolés, ils ont fait chacun leur traduction de l'Ancien Testament, et à la fin, on a comparé les copies, et c'était totalement identique. Alors ceci a de bonnes raisons d'être légendaire, mais bon voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle la traduction des Septante. C'est une traduction qui est assez importante pour nous, parce que c'est cette traduction de l'Ancien Testament qui est citée par Jésus et par les apôtres. Car les Juifs, au fil du temps, ont fini par délaisser l'hébreu au profit du grec. Et donc, quand nous lisons des citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, ce sont des citations tirées de la Septante et pas du texte hébreu qu'on appelle le texte massorétique. Donc, c'est pour ça que cette traduction de la Septante est importante pour nous. Elle est aussi importante parce qu'elle a donné un nouvel ordre à nos Bibles. Enfin, en tout cas, à nos anciens testaments. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, où à gauche, vous avez l'ordre des livres dans la Bible hébraïque, qu'on appelle aussi le Tanakh, et à droite, l'ordre des livres dans la Septante. Si les cinq premiers livres de l'Ancien Testament sont toujours en premier, hein, c'est la Torah qui reste en premier, c'est ensuite que les choses diffèrent, puisque dans la Bible hébraïque, vous avez les prophètes antérieurs, ensuite les prophètes postérieurs, et à la fin, les écrits. Et donc vous voyez que dans la Septante, les livres historiques dans la Bible hébraïque sont dispatchés entre les prophètes antérieurs et les écrits. Les livres poétiques de la Septante se retrouvent eux aussi dans les écrits. Et ce qui vient à la fin de la Septante, c'est-à-dire les livres prophétiques, sont, on va dire, au milieu de la Bible hébraïque avec les prophètes postérieurs. La plupart des Bibles protestantes ont opté pour l'ordre de la Septante, et c'est pour ça qu'elle est si importante pour nous. Et la plupart des Bibles catholiques ont conservé l'ordre original de la Bible hébraïque. Voilà l'apport positif de la Septante, l'apport en tout cas qui nous impacte encore aujourd'hui pour les Bibles protestantes. Mais il y a un aspect plus négatif de ce processus d'hellénisation. Et cet aspect négatif, je vous propose de le voir dans la prochaine vidéo.